Voltage Dance Music.
Bienvenue sur Voltage, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur Voltage.
Bonjour Eric Tolenado, Olivier Nakache. Alors vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma?
Voilà, c'est là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique et obsessionnelle. C'est vraiment, je pense qu'on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit, ça a déjà été fait, bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas aller sur les terres. Au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Là, par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée, Barbie, un truc comme ça. Finalement, ça a été fait, puis on va pas le faire. En plus, ça a pas marché.
Attends, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout le truc. Ouais.
On va passer à autre chose.
Alors, après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
c'est
difficile.
La bombe atomique. évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein, et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer, et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer, à mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation, et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète, et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes, et qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie, et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement?
Tout à fait. Ouais. On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, voilà, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller à la rencontre des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier, c'est tout un protocole et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'auditeurs qui vont le découvrir du coup avec le film. Alors quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. Pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en films. On a travaillé dans des mariages, on a fait Le Sens de la Fête, on a travaillé dans les colonies de vacances, on a fait Nos Jours Heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme...
En Normes.
En Normes, on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux, et on a fait Hors Normes. Donc je pense que c'est des années sandwich, où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents, on imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage, ça a dû être un défi pour certains endroits, je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi, ce film n'a été qu'une succession de défis à relever, et c'est tant mieux parce que on aime aller dans des nouveaux territoires et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement, ça nous manquait. Ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans à écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes. C'était fabuleux. Il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Et puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est ok, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été simple?
C'est le bordel. Ah, pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop de deux. Mmh. On peut dire choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
De grands pros, donc si vous voulez, ils savent aussi l'importance l'enjeu d'une journée de tournage et de scène à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on nommait pas avec eux la déconne. Il y a de la déconne et du coup c'est à nous de la canaliser, de la transformer et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur, est-ce qu'il comprend mieux vos attentes parfois? Est-ce qu'il a été force de proposition à certains moments?
Oh, il peut proposer, de temps en temps on prend, de temps en temps on prend pas, mais oui, il est plutôt créatif et il y a quelques petits moments de brillance dans le film aussi qui sont des fulgurances qui lui sont arrivées ou alors qu'on a eu comme idée au dernier moment. En tout cas, il est très réactif, c'est un peu comme un sportif, on lui envoie le ballon, il peut le renvoyer tout de suite. Mais ceci dit, Pio aussi, il a l'air moins comme ça, mais il peut être très, très vif et très réactif aussi.
Alors vous avez évoqué la comédie italienne tout à l'heure, il y a un film de Dino Risi qui s'intitule Une vie difficile. En plus du titre, on y trouve plusieurs similitudes avec des prises de position un petit peu radicales dans le film, une histoire d'amour qui semble impossible. Vous sentez-vous proche de la comédie italienne avec du coup son mélange de cruauté humaine, la cruauté sociale et la tendresse? On mélange tout ça?
Oui, on se sent proche au point de se revendiquer d'influence de comédie italienne tout au long des film, on en a parlé, mais c'est peut-être le plus italien celui-ci, puisque il prend tout le monde et il met tout dans un sac et il met une sorte de dose de noirceur et de pessimisme qui se transforme avec la comédie en petits moments d'aération réguliers et il dénonce et il aborde des sujets complexes avec légèreté. C'est tout l'art des Italiens de cette époque. Et puis alors La vie difficile dont vous parlez a été le début de ce titre qui est arrivé corroboré par le petit montage que les gens découvriront au début du film, qui explique aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui voudront le savoir, pourquoi nous avons choisi ce titre.
Alors, il y a une grosse attente lors de la sortie de vos films. Comment est-ce que vous la gérez, cette attente? Est-ce que vous êtes plutôt du genre stressé ou du genre à en profiter?
Les deux. En fait, on est stressé. Les deux, mon colonel. On est stressé, on est névrosé, on a peur, on doute. Mais en même temps, on veut aussi en profiter. C'est pour ça qu'on fait une grande tournée dans toute la France avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens et en même temps, ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah, justement, vous parlez des doutes. Alors, quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois, vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
Oh, on se sent proche, en fait, c'est un peu bizarre, parce qu'on se sent proche de tous les personnages, parce qu'on on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc, quand Noémie se met à dire... on est là avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir. Je me sens proche de ce qu'elle raconte parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050 et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars, je me dis si j'étais dans sa situation... J'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité quand on perd un parfum, un déodorant? Je me suis dit, mais si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture, c'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens du coup qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être, entre guillemets, moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet sans essayer de les blesser? sans les blesser à aucun moment dans le film.
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé. La moquerie, c'est depuis l'école, les moqueurs, on leur pète la gueule. Mm-hmm. C'est pas de la moquerie. C'est ce que nous, on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence. C'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnettes, et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit, mais on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables, il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et à gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. Je n'ai pas l'impression et qu'on a la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors, du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il n'y avait plus de problème?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame, et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non, mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, 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 c'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre, et mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, il faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants ou du pouvoir. Il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense les que deux. Quand on hume bien, bien ouais. Quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur Voltage.
De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte. Si estás aquí, no quiero ir así, no es contigo, contigo, ey. Quiero a ti, no necesito a más nadie. Ey, ey, perdí yo
La nuit, c'est le moment sur Voltage où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Vous l'avez peut-être vu dans le jury de Danse avec les Stars sur TF1. On a interviewé François Allu, danseur étoile, qui a pas mal fait parler de lui, notamment pour avoir quitté l'Opéra de Paris pour se consacrer à ses propres projets, comme son spectacle Complètement Jeté, où il mêle humour, danse et théâtre. Originaire du Cher à l'origine, et pas du tout de la capitale, il nous l'a confié, ses débuts dans la danse n'ont pas été des plus faciles.
Alors les débuts, ils ont été très mouvementés parce que donc j'ai dû quitter ma famille à laquelle je suis très attaché. J'avais 9 ans et demi quand j'ai quitté le berceau familial, mon petit berceau à Fussy dans la région centre, pour monter dans la capitale. Et c'est vrai que c'était un déchirement. Et en même temps, j'étais hyper exalté d'aller à l'aventure et de pouvoir aller apprendre mon nouveau métier, de devenir un artiste. Après, je savais pas qui m'attendait tout ça, tous ces rebondissements. Et puis, c'est l'école de danse de l'Opéra Paris, c'est une école qui est très, très difficile, hein, parce qu'on commence le matin. En fait, on a les cours de 8h à midi. Et ensuite, l'après-midi, on travaille de 13h30 jusqu'à 18h30, 19h, je crois, avec des cours de danse, des cours de musique, des cours d'histoire de la danse, des cours de folklore, enfin des cours de mime. C'était très varié. Et pour un enfant hyperactif comme moi, c'est vrai que à la fin des journées, je dormais bien.
C'est tôt quand même, non, 9 ans et demi pour quitter le nid familial?
Absolument. En fait, c'était très étrange parce que je me rappelle de moments très difficiles où j'appelais ma mère au téléphone, où je pleurais et elle me disait, mais si tu veux, tu peux rentrer. Je lui disais, non, je vais rester, alors que il y a une part de moi qui était en souffrance totale. Mais il y avait un appel, je pourrais même pas l'expliquer, une sorte de foi en l'art quelque part, et qui me faisait tenir en fait. Et c'était ma voix et j'ai suivi. C'était quelque chose qui était plus fort que l'amour que j'avais pour mes parents et pour mon frère, alors que c'était la chose la plus grande auparavant. Donc c'était quelque chose d'un peu mystique comme ça. Mais aujourd'hui, je suis ravi parce qu'évidemment il y a eu des grands moments de souffrance, mais j'ai vécu des choses exceptionnelles aussi. C'est grâce à l'Opéra de Paris ensuite que j'ai pu aller danser dans le monde entier. On est allé au Japon, on est allé en Amérique, en Australie, en Amérique du Sud. J'ai fait des rencontres incroyables, dont celle avec Samuel Mures, qui est le co-auteur de ce spectacle Complètement Jeté, qui a changé ma vie en fait par la suite, quoi. Donc vraiment, c'était assez incroyable. Et puis l'Opéra de Paris, ça m'a permis aussi de rencontrer des corps de métier fabuleux, parce qu'à la fois il y avait des gens qui faisaient des décors, des costumes, des machinistes, des administrateurs, des producteurs, enfin vraiment ça fourmillait. Puis évidemment tous les danseurs qui sont incroyables, les chorégraphes, hein, les chefs d'orchestre, c'est très fourni, et c'est une chance inouïe que j'ai eue de pouvoir vivre tout ça, et aujourd'hui ça me rend très heureux.
Vous avez fait l'école de l'Opéra de Paris et vous avez intégré ensuite la compagnie de l'Opéra de Paris, c'est cela ?
Exactement, je suis rentré dans la compagnie de l'Opéra de Paris à 16 ans et demi, exactement. C'est relativement tôt, parce que moi j'ai pas passé mon bac en fait. Il faut savoir que certains continuent les études par la suite. Moi j'avais qu'une hâte, c'était arrêter l'école à tout prix pour pouvoir ne faire que de la danse, parce que déjà quand j'étais à l'école de danse, je ne faisais que danser. Même les week-ends, ma mère me disait « t'as bien fait tes devoirs ?» Je dis « oui, oui », alors que c'était pas vrai. Et puis parfois elle me dit mais sors, va voir tes amis. Et je lui dis mais non, tu sais, je préfère être dans le studio de danse, quoi. Et vraiment j'étais passionné, quoi. J'ai dévalisé vraiment YouTube. Je connaissais toutes les vidéos par cœur, même les documentaires. Je connaissais les répliques. Enfin, j'étais un obsessionnel en fait de danse, quoi. Vraiment, j'étais happé par ça. Et j'avais un besoin immense de me dépenser, mais surtout de danser. Faut savoir que dans les supermarchés, quand je faisais les courses avec mes parents, même plus jeunes, dans les allées entre les haricots et les petits pois, je faisais des tours en l'air, des pirouettes. Avec mes parents qui me disaient arrête, s'il te plaît, arrête.
De la danse, mais aussi du cinéma et de la télévision avec Danse avec les Stars, quel est l'exercice que vous préférez ?
Ben, je crois que ce qui me plaît fondamentalement, en fait, c'est d'incarner des personnages et de raconter des histoires, de créer. En fait, plus globalement, c'est d'être dans des instants de création intense, des moments où je suis en collaboration et où je vais être, par exemple, je pense à Samuel Mures, quand on est tous les deux et qu'on est en train d'écrire ensemble et qu'on rigole ou qu'on se dit ah tiens, j'ai une super idée, il va se passer ça. Enfin, c'est le fait d'alimenter la créativité par quelque chose. En l'occurrence, au début c'était la danse principalement, mais comme vous le disiez, j'ai eu la chance de pouvoir jouer un petit rôle au cinéma pour Andrea Bescon et Éric Métayer dans leur futur film qui j'espère sortira prochainement, et puis j'ai moi-même en fait pendant le confinement écrit deux films qui ont été diffusés ensuite sur sur Culture Box, un avec Kamel Menour qui est un galeriste à Paris et un autre que j'ai vraiment produit de A à Z qui s'appelait L'Échappée et La Source, et j'ai adoré en fait le côté narratif, la réalisation, le fait de m'intéresser à l'image, aux couleurs, aux lumières, aux axes, enfin en fait c'est le fait de pouvoir plonger un spectateur ou un téléspectateur dans un autre univers qu'une routine quotidienne. En fait, ça c'est vraiment mon objectif, et je crois que en fait c'est vraiment lié à mon hypersensibilité. Au début c'était assez pathologique, c'est-à-dire qu'en cours, en scolarité, je posais des questions qui n'avaient pour tout le monde absolument rien à voir, et tout le monde me disait mais il est idiot, mais il est débile, mais il est bizarre. J'avais un peu ce côté-là, et pendant longtemps ça m'a peiné. Et suite à une longue thérapie de 7 ans avec une psychologue, et ben j'ai compris déjà d'où ça venait, cette hypersensibilité et les pouvoirs entre guillemets, les pouvoirs et les faiblesses que ça a apporté. Et je me suis dit vraiment voilà, il faut essayer d'en faire bon usage, et en fait le pouvoir que ça apporte, c'est qu'on a une limite qui est hyper poreuse en fait entre le monde de l'inconscient et le monde du conscient, et donc les informations passent très très vite, très rapidement, et il y a des choses complètement incongrues qui sortent. Mais justement quand on est en scolarité, ou si je travaille dans un bureau, dans une banque par exemple, et que je faisais le type de réflexion que je fais, je pense que je serais rapidement renvoyé. Mais en revanche, en tant qu'artiste et en tant que créateur, je pense que justement, c'est ce qu'on vient voir, parce que finalement, quand on va au théâtre, c'est un endroit où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est des choses qui n'ont pas lieu normalement dans la vie de tous les jours, ou des scènes qui sont un peu étranges ou dérangeantes. Et là, on les met justement en exergue sur la scène. Et ça me plaît beaucoup, parce que les personnes dont je fais partie aussi, hein, en tant que spectateur, on ressort et on est bouleversé, on se sent vibrant. Et je pense que c'est ça le propre de la vie, en fait, c'est d'avoir des émotions aussi très fortes. Et j'aime être un procurateur d'émotions, voilà.
Est-ce que cela vous a apporté quelque chose de participer à Danse avec les Stars?
Ah, bah absolument, parce qu'en fait Danse avec les Stars, donc c'était les premiers moments où moi j'avais déjà fait un petit peu de télé, quelques interviews, mais là c'est vrai que c'est quand même des millions de téléspectateurs qui nous regardent chaque soir. C'était pas forcément ce même public en fait qui venait voir les spectacles dans lesquels je jouais, donc je suis content d'être allé à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux spectateurs, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu, je me rappelle, les trois jeunes filles qui sont venues à Paris après mon spectacle au Trianon, et elles m'ont dit bah écoute, on n'était jamais allé voir de spectacle comme ça, et ça nous a vraiment beaucoup plu, ça nous a séduit, et merci en fait, parce que si t'étais pas venu sur Danse avec les Stars, on serait pas venu non plus, et je suis content, parce que c'était un peu le moteur de pourquoi j'ai fait cette émission. Je me suis dit ce serait génial d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Et puis c'est vrai que, pour être très honnête, j'étais pas forcément très épanoui juste avant de faire Danse avec les Stars. C'était un moment un petit peu compliqué pour moi, pour plein de raisons. Et j'avais lu dans un livre une phrase que j'avais adorée, qui disait « Pour être là où tu n'es pas, il faut emprunter la voie dans laquelle tu n'es pas ». Et auparavant, jamais, je pense que si on m'avait proposé de faire Danse avec les Stars quand j'étais pleinement à l'opéra, à 100% là-dedans, je pense que j'aurais décliné la proposition, parce que j'étais, encore une fois, obsessionnel et peut-être trop enfermé dans une vision. Et là, je suis content de m'être ouvert, parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait rencontrer de très belles personnes. J'ai pu apprendre, enfin, et travailler sur ce nouvel exercice qui est être juré, mais à la télé. J'avais déjà fait juré à l'Opéra de Paris en tant que membre pour le concours interne et concours externe. Mais là, c'est vrai que c'est pas pareil, parce qu'on doit faire des commentaires relativement concis, il y a quand même du jeu, de la tension et tout ça. Donc c'était un bel exercice, et puis très intéressant de voir tous ces corps de métier aussi qui s'activent dans la télévision, quoi. Le premier assistant, le technicien, les danseurs, le fait d'enregistrer, d'empexer des choses avant, de les diffuser après, de voir la gestion du public en direct aussi. Enfin, c'est vraiment très très intéressant.
Parlez-nous de votre spectacle Complètement Jeté, donc votre premier seul en scène qui mélange plein de styles différents apparemment.
Alors c'est assez marrant, parce que quand mon attaché de presse est venu le voir pour la première fois, il a dit « mais en fait ça n'existe pas, c'est du dance-up » en référence au stand-up et au stand-up dansé finalement, et je crois que c'est un petit peu ça. En fait c'est un moment qui est assez intense, je crois que ça représente un peu ma vision du monde finalement, c'est-à-dire... C'est très compact, c'est très dense, avec un E et avec un A. Il y a 15 variations de danse, donc il y a du classique, il y a du contemporain, il y a un solo de hip-hop aussi, où pendant une minute je me déchaîne et après je suis épuisé. C'est un moment que les gens aiment beaucoup, donc on le conserve dans le spectacle. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ce spectacle, il y a aussi plein de personnages. C'est plein de personnages qu'il y a dans ma tête, réellement, des voix que j'entends, un peu comme Jeanne d'Arc, hommage à Bourges, notre région centre. Et donc voilà. Et en fait, c'est un personnage que j'incarne, où il y a un peu de moi quand même dedans, même pas mal de moi. Et toutes ces voix, en fait, elles viennent bouleverser et elles viennent percuter comme ça le personnage. Alors évidemment, c'est très humoristique, mais il y a aussi des moments où de tension, en fait, où j'ai peur, où je suis en colère, où il y a de la rébellion. Et en fait, ce spectacle, on l'a vraiment créé avec Samuel Murez pour une raison. Enfin, moi, c'était essentiel pour moi. Je me suis dit, j'ai envie de me détacher du « quand dira-t-on ?». Étant danseur, c'est vraiment le propre de notre métier, c'est d'être regardé en permanence. Donc on se regarde aussi, nous, beaucoup dans le miroir. On se dit, est-ce que ma jambe elle a assez tendue, est-ce que mon pied a assez tendu, est-ce que mes cheveux, moi j'en ai plus, mais est-ce que mes cheveux sont bien coiffés, est-ce que j'ai un bon teint, est-ce que si. En fait, c'est un métier d'image. Et je me suis dit, mais c'est terrible, parce que ce métier d'image, en fait, il impacte beaucoup sur la vie de tous les jours, parce qu'en fait, on se regarde énormément le nombril et on est très sur nous. Et on est très vulnérable, en fait, à ce que va penser l'autre. Et je me suis dit, vraiment, j'aimerais. Et puis je voyais autour de moi, dans mon entourage, pas que dans les danseurs, hein, mais dans d'autres êtres humains dont je suis proche, qui étaient très sensibles, en fait. On est tous assez sensibles à ce que pensent les gens de nous. Et je me suis dit, mais libérons-nous de tout ça, libérons-nous de ces chaînes et de ces limites qu'on s'impose nous-mêmes. Je serai jamais capable de faire ci, ce sera pas possible de faire ça, non mais ça j'ai pas le droit. Et en fait, j'avais envie vraiment de me détacher de ces chaînes-là et de partager ça au plus grand nombre. Je voulais que ce spectacle soit vraiment universel, parce que c'est trop dommage de passer à côté de sa vie parfois. Et typiquement, ne serait-ce que l'exercice du seul en scène, moi j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça, d'être en scène, de parler, de raconter l'histoire, mais je me disais, non mais de toute façon, toi t'es trop bête, t'es trop stupide, tu peux pas apprendre un texte, à l'école t'y arrivais pas, et puis tu sais pas bien écrire, et puis voilà. Et en fait, je me suis lancé ce challenge, ça a lieu pendant le confinement, en fait, vraiment avec Samuel, c'est là où on a commencé à écrire chacun de son côté, puis ensemble, et en fait on a vraiment fait ce spectacle à deux. Et c'est là où est né, en fait, ce tissu de paradoxe, en fait, qui nous compose, et de montrer que c'est OK, finalement, d'avoir toutes ces différences, et que c'est même intéressant, parce que ce qui nous différencie de la norme, de la doxa, et ben c'est ça qui va faire qu'on est unique, et comme on dit, ce qui est unique est cher. Et donc voilà, moi j'ai envie de prôner cette différence et de prôner cette liberté au maximum, et donc c'est comme ça qu'est né ce spectacle, qui est à la fois épuisant, parce que je me donne comme pas possible, à la fin je suis épuisé. On avait capté avec un capteur cardiaque qui faisait aussi le nombre de calories. Je brûle 1500 calories pendant le spectacle, donc c'est une heure et demie où ça n'arrête pas, où je danse, où je parle, où c'est vraiment très intense. Et en même temps, j'adore, parce qu'il y a une vraie communion avec le public. C'est ce qui me manquait, en fait, auparavant. C'est qu'avant je dansais, mais j'avais envie d'une proximité encore plus forte. Pour moi, c'est hyper important, le lien avec le public. Et je me suis dit, mais comment je peux faire, sachant que j'ai pas le droit de parler. Pour un moment, c'est dit, mais bah tu sais quoi, on va le prendre, ce droit de parler. Et donc maintenant, je peux directement m'adresser au spectateur, et il y a un lien qui est très fort. Et puis il y a des choses qui se passent pendant le spectacle. Parfois, les gens parlent, je peux reprendre ce qu'ils disent sur leur rire. Enfin, il y a une vraie interaction, une vraie connexion, et c'est pas juste l'interprète sur la scène et les gens qui regardent. C'est quelque chose où il y a une vraie communion, et ça me plaît énormément.
Merci François Allu, danseur étoile.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur Voltage pour écouter votre musique préférée. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name, I'm public. There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Yeah. Vous êtes sur Voltage. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Les jeunes seraient-ils réticents à passer le permis de conduire? C'est du moins ce que laisse penser l'étude de référence Parcoto menée par l'Institut Kantar. Les chiffres annoncent que 69% des 18-24 ans ont le permis en 2022 contre 77% en 2002, soit une baisse de 8% en 20 ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse, un coût trop élevé, une prise de conscience environnementale ou encore l'objet voiture qui ne fait plus autant rêver qu'avant. Alors, on est allé poser la question à un spécialiste du permis de conduire.
Bonjour, Bruno Garancher, je suis président de l'association École de conduite française.
Alors Bruno, vous me disiez qu'il fallait être prudent avec les chiffres et surtout qu'il fallait les nuancer selon la zone géographique où se trouvent en fait les conducteurs.
Le recul de l'âge du permis de conduire est très variable suivant les zones géographiques puisque globalement, si c'est assez vrai dans les zones urbaines où des moyens alternatifs de transport peuvent être utilisés, transport en commun, utilisation du vélo, etc. et des mobilités douces. C'est beaucoup moins vrai dans les zones rurales et dans les villes moyennes, puisque là, la plupart du temps, les jeunes n'ont d'autres moyens que l'accès à l'automobile pour arriver à gérer leurs déplacements du quotidien. Ce qui veut dire que quand on regarde, nous, effectivement, la répartition des âges de passage du permis de conduire, on s'aperçoit que les agences qui sont situées dans ces villes moyennes et dans ces zones rurales restent sur des âges qui sont plus proches de 18 ans, voire qui ont tendance à se rajeunir. Puisque si effectivement on avait vu jusqu'en 2019 apparaître un réel vieillissement, qui était probablement dû aussi au fait que pour les familles, la charge du financement du permis de conduire devenait de plus en plus difficile à supporter, les différentes mesures qui ont été prises de façon à favoriser le financement par les familles, que ce soit le permis à 1 euro, la prise en charge partielle de la formation par les centres de formation d'apprentis pour les jeunes qui sont apprentis, l'utilisation du CPF pour les gens qui ont pu travailler comme apprentis par exemple à partir de 16-17 ans ou simplement qui ont travaillé en job d'été ou en job d'accompagnement de leurs études, on voit nettement un rajeunissement, et je le répète, hein, surtout sensible dans les zones rurales et villes moyennes.
Alors il y a quand même quelque chose que je note à titre personnel, c'est qu'on remarque que chez les jeunes lycéens, ce n'est plus tellement un objectif comme il pouvait l'être il y a quelques années. C'est-à-dire que avant c'était comme le bac, c'est-à-dire il fallait passer le bac et puis le permis. Là, on a l'impression qu'il y a un peu un désintéressement, qu'il y a des choses qui font que bah voilà, le permis ne devient plus réellement obligatoire dans l'état d'esprit des jeunes.
Oui, vous avez raison, mais en fait, c'est pas tellement lié à l'utilisation du véhicule, dans le sens où globalement, les jeunes conviennent sans aucun problème qu'ils ne peuvent pas se passer de l'auto, c'est plutôt lié aux représentations qu'ils ont vis-à-vis de l'automobile. Les générations un peu plus anciennes, entre guillemets, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin, passer aussi le permis de conduire par rapport à l'aspect social de l'automobile. C'est-à-dire que le permis de conduire, vous le disiez assez bien, faisait partie des rites de passage vers la vie adulte et pouvait aussi correspondre à des représentations individuelles qui faisaient que avoir une automobile, entre guillemets, sa place vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, ces représentations, effectivement, sont en très très net recul, ce qui aussi a des effets plutôt positifs, parce que ça veut dire que si on met moins d'affect dans l'automobile, on risque moins de l'utiliser comme objet de représentation et de pouvoir, entre guillemets, ou de frime. Ça génère aussi des comportements qui sont différents sur la route, mais il n'empêche, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auto reste de toute façon, y compris pour ces jeunes-là, un objet d'obligation, c'est-à-dire que faut bien passer par là, certainement, pour une partie du moins, sachant qu'il y a encore une partie de la population pour qui accéder à l'automobile est une vraie valorisation. Il y a encore une partie de la population pour qui passer le permis de conduire est accéder pratiquement au seul diplôme qu'ils auront dans leur vie et pour lesquels c'est à représentation forte.
Il y a aussi une évolution dans le choix des formations, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes vont aussi se tourner vers les boîtes automatiques, donc plutôt les voitures, on va dire, électriques, hybrides, et puis même, il y en a qui vont littéralement vers les voitures sans permis, par exemple la dernière, là, de Citroën qui est sortie. Ça, c'est un vrai boom qu'on connaît chez les jeunes.
Comme les représentations vis-à-vis de l'auto sont moins fortes, bah effectivement, on va aller vers des véhicules qui sont moins porteurs de symboles, plus pratiques, plus aisés à conduire et qui correspondent plus aux mobilités dont on a réellement besoin. Donc, vous citiez l'exemple de l'ANI, on pourrait citer globalement l'exemple de l'ensemble des quadricycles, puisqu'on voit que ce marché du quadricycle léger, qu'on a tendance à appeler voiturette, est en plein boom. Effectivement, aussi bien du côté de l'ANI, qui elle a en plus une caractéristique particulière, c'est que c'est un véhicule électrique, donc elle rentre dans le schéma global de ces mobilités douces et moins polluantes, mais on voit aussi les immatriculations assez considérablement augmenter du côté des constructeurs encore thermiques, je pense à Ligier et Exam par exemple, qui sont les deux constructeurs français importants. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet à la famille de donner accès à un véhicule 4 roues plus protecteur entre guillemets que le cyclomoteur dès 14 ans. Et puis effectivement, dans cette espèce de continuité où on a commencer déjà à travailler avec un véhicule qui avait pas de boîte de vitesse, qui avait pas d'embrayage, ça emmène les jeunes à s'intéresser de plus en plus à la boîte automatique, d'autant plus que les véhicules auxquels vous faisiez référence, c'est-à-dire les électriques et les hybrides, sont tous équipés de boîtes automatiques pour un certain nombre de raisons. Donc oui, on a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui hésitent très clairement quand ils arrivent à 18 ans pour passer le permis de conduire, entre aller directement sur de l'automatique ou passer par la boîte manuelle, sachant quand même que la boîte automatique les intéresse pour des raisons de facilité, pour des raisons de coût, puisque la durée de la formation sur une boîte auto est amputée pratiquement d'un tiers de sa durée, donc derrière génère des économies de coût sur le permis de conduire.
Et est-ce qu'au-delà du contexte économique, il y a aussi le contexte écologique? C'est-à-dire que, ben voilà, moi j'ai pris conscience que j'avais envie de moins polluer en roulant avec ma voiture, donc je vais me tourner vers ce type de modèle.
Il y a ça, mais les jeunes se projettent aussi dans l'utilisation de leur véhicule en termes de travail. Et ils savent pertinemment que le véhicule qu'ils auront éventuellement à conduire en termes de travail, je pense aux apprentis par exemple, hein, apprentis du bâtiment, les apprentis qui savent que derrière leur métier sera conditionné par le déplacement, ils vont avoir tendance à malgré tout choisir la boîte manuelle parce qu'ils savent que dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, on n'aura pas forcément de véhicule à boîte automatique. Donc il y a un système d'attirance-répulsion. Alors souvent, ce qu'ils font, et sous notre conseil, c'est qu'ils commencent par la boîte automatique, sachant pertinemment que après 3 mois de permis de conduire, ils peuvent basculer sans avoir d'examen à repasser sur une boîte manuelle, simplement en passant par la formation.
Est-ce que vous auriez quelques chiffres pour illustrer un petit peu, alors déjà, la différence entre passer son permis dans un contexte urbain et dans un contexte rural, mais aussi passer son permis quand on habite Paris, la capitale, et puis quand on habite la province ou même d'une autre grande métropole de France?
Pour ce qui concerne les agences du groupe ECF, l'âge moyen du permis de conduire sur Paris Grande Couronne se situe aujourd'hui à 23 ans et 7 mois. Pour ce qui concerne une ville comme Bordeaux, on est un petit peu en dessous puisqu'on se situe à 22 ans et 2 mois. Et pour le centre-val de Loire, c'est-à-dire des zones comme Tours, comme Blois, on est sur un âge qui, lui, est descendu.
Bière Pélican présente. Nous sommes actuellement en présence d'un remarquable spécimen de bière Pélican. Observez sa couleur dorée, pas de doute. C'est bien une bière blonde Pélican. Pour révéler son goût généreux, la bière Pélican amorce son rituel de service. Un retournement de sa bouteille qui permet de remuer les levures et donner tout son caractère à la bière Pélican non filtrée. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
On s'était très bien entendu et puis je pense que moi j'ai envie de faire plein de choses avec lui. Je pense que je suis un peu, je peux devenir, et lui il adore tous les acteurs, mais un peu son acteur pas fétiche, mais on se ressemble un peu dans la vie. On est un peu de ours tous les deux, on est... Je pense très sensible, un peu, on est cultivé, lui, vraiment érudit dans plein de domaines, mais moi je connais aussi pas mal de choses, mais avec un vraiment beaucoup d'humilité par rapport aux gens. On est toujours très 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 très, moi je suis très, comment dire, admiratif de. Je suis allé voir Pat Metheny à l'Olympia sur les guitaristes, sur les musiciens, sur les philosophes, sur les mecs qui connaissaient champignons, et sur les tailleurs de pierre qui, voilà, enfin vous voyez, les grands cuisiniers ou les enfin bon bref, l'excellence me, et la passion m'enthousiasme, voilà. Donc là, le rôle, oui, c'est ce rôle-là, mais ça me correspondait pas mal, hein, je pouvais le faire. Hein. C'est pas vraiment moi dans la vie, mais c'est pas loin pour le moment, bien sûr. C'est pas vraiment moi non plus, bien sûr, mais il y a des petites choses un peu artistiques, de doute, que j'ai pu connaître dans les années 80, par exemple. Parce que là, c'est un personnage quand même qui doute, parce que le rendez-vous qu'il a avec son agent, qui est interprété par Dominique Fraud, bon ben, poliment, elle leur fait comprendre que voilà, ils ont un certain âge et qu'ils sont pas encore à la poubelle, mais enfin, voilà, ça va être de plus en plus difficile pour eux. Donc c'est dur à entendre, ça, pour mon personnage. Donc voilà, toutes ces petites choses, ces petites strates, toujours bien écrites, puis alors après ce rapport avec ce robot, où ça reste un enfant en fait, hein, ce personnage, c'est ça que j'aime beaucoup. Hein. Il le traite avec mépris, mais en même temps il le considère, donc c'est une machine, il l'oublie. Hein. Il est presque content quand il se gourre, il dit yes, c'est idiot.
Et ce personnage d'ailleurs, il a des défauts, comme chacun d'entre nous ont des défauts. Est-ce que travailler avec quelqu'un avec qui on a une amitié, c'est différent de quelqu'un avec qui on est un peu plus éloigné, ou c'est pareil?
Non, c'est pas pareil, parce qu'on est dans le boulot, je travaille avec des gens qui, je veux pas dire des noms, mais qui ont des défauts insupportables, mais bon, dans le travail, ça peut passer. Parce qu'on sait que ça dure pas longtemps. Mais je parle d'amitié, où c'est vraiment quelque chose qui se fait sans choisir, ou l'amour, bien sûr. Là, j'ai revu un de mes plus vieux amis qui a des défauts, et moi je vais en avoir aussi. Enfin, lui, il était un peu en dents de scie, mais ça m'a fait plaisir de le revoir. Et ses défauts sont, quand il va bien dans sa tête, je m'en fous en fait. Je crois que c'est réciproque. L'homme parfait, c'est quelque chose qu'on doit tendre, et encore, il faut savoir ce que c'est que la perfection, mais on peut comprendre un petit peu ce que c'est quand même. On sait très bien qu'il y a des fois où il faut se remuer, c'est une question d'énergie aussi. Aimer, c'est agir, c'est ce que disait Victor Hugo, il faut agir aussi parfois. C'est peut-être un peu le gros défaut de mon personnage dans le film au départ, c'est qu'il a un peu laissé tomber les choses. Et le robot va le réveiller un peu en fait.
Et vous, à quel moment vous avez compris, Didier Bourdon, qu'il fallait aimer avec des défauts?
Avec le temps, la maturité, bon, c'est toujours triste aussi de vieillir sur certaines choses physiques et tout, mais au moins il y a ça. Je suis moins cyclotimique, comme je dis, j'accepte aussi dans un couple des moments un peu moins bons, parce qu'à l'époque, voilà, comme beaucoup de jeunes, ah ben si ça va pas, c'est que c'est pas la femme de ma vie, ou sinon, ou alors ce copain m'a fait un sale coup, sauf si c'est. Mais c'est voilà, non, oula, tranquille, avec le temps on comprend que c'était juste un passage, que j'avais pas bien vu les choses, voilà, on est plus serein là-dessus.
Vous, comment vous abordez le travail avec le réalisateur, d'autant plus que vous avez déjà réalisé?
Ah, j'aime bien être dirigé, surtout quand c'est bon, metteur en scène. Hein, j'ai fait beaucoup de films avec Alexandra Leclerc, j'ai même tourné avec Ridley Scott, j'ai un peu peur, ça s'est très très bien passé, parce que voilà, il vous parle à l'oreille, puis il vous donne les instructions, et il y a aussi une sorte de liberté de jeu. C'est, quand on est un acteur, à un moment donné, on est comme à l'université, on n'est pas à l'école primaire, donc il vous donne des indications, c'est à vous ensuite de donner la couleur. Je pense que quand un grand réalisateur ou réalisatrice, hein, j'y fais en général bien évidemment, vous choisit, c'est que, comme disait Stanley Kubrick, c'est déjà fait, quoi. C'est-à-dire qu'il, c'est pour ça, quand il y a des réalisateurs qui pestent, quand j'entends parfois, ah, ça s'est très mal passé, c'est de la faute du réalisateur, il n'a pas le cas de choisir, hein, la personne. Moi, ça s'est trouvé une fois où j'ai eu un problème, j'ai rien dit à l'actrice, c'était une actrice, elle était très bien, mais c'était parce que j'avais été débordé pendant et pas assez épaulé d'ailleurs, je l'avoue, hein, mais c'est un peu de ma faute aussi. Et c'était pas le bon choix, mais je me doutais que c'était pas le bon choix. Après, la personne était une grande actrice, hein, mais c'était pas le bon choix.
La technologie, elle occupe une place quand même assez importante dans le film, bien évidemment. Telle qu'elle est dépeinte, est-ce qu'elle vous fait peur ou pas?
Non, ben on en parle pas mal dans les interviews. C'est un peu, pour moi, c'est un peu les deux. Valérie, elle aime pas trop. Pef, il est un peu comme moi. C'est sûr que non, Pef, il dit un truc assez juste. C'est pourquoi me donner une apparence humaine au robot. Alors, tout à l'heure, à force de faire l'interview, il pensait que peut-être Elon Musk a inconsciemment envie de mettre un peu d'ADN dans son truc. C'est comme dans le banquet, hein, tout est expliqué, on essaie d'essayer d'être immortel tout le temps, hein, donc il y a un peu de ça. Parce que c'est vrai que le robot pourrait avoir... moi, un robot, moi, s'il devait avoir un peu de pieds et des mains, tout ça, bah, je dirais que s'il ressemble à celui de Star Wars avec des gros trucs, machin, ça irait, parce que c'est comme un jouet, quoi. Mais de là, essayer d'imiter l'homme, c'est vrai que c'est presque malsain. D'ailleurs, c'est écrit dans le film, c'est pourquoi il est si bien baraqué, machin. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? Ouais, c'est pas mal, cette réplique. Ils veulent quoi ? Ils veulent nous humilier, ils veulent... nous remplacer, ils veulent aussi, un peu comme la Corée du Nord, on les connaît, comme mettre tout le monde à égalité, c'est intéressant, hein, c'est le génisme, c'est toujours les mouvements totalitaires qui sont intéressés à ce truc-là. Hein.
Au final, selon vous, quel est le message, le sens véhiculé par ce film ?
Bah, le message, en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire, on voit bien dans les interviews, et je pense que les gens sortant du film, c'est que un peu comme dans les contes de Grimm ou des contes comme ça, c'est aux dépenses, alors c'est chouette, disons, il y a le bon génie, et il offre au personnage principal d'exaucer un de ses vœux incroyables, et puis petit à petit, ce vœu, en fait, ça devient une calamité. Et d'un seul coup, l'autre revient en disant je veux plus de ça, vas-y, reprends ton truc, je préfère être comme avant. Et c'est pas mal, il y a un peu de ça. Dans ce truc-là, c'est parce que le robot ressemble à un homme. Après, il y a une fin un petit peu étrange où peut-être le robot est acceptable parce que ça devient presque un être humain. Ça, c'est encore autre chose. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est un petit... Mais sinon, le robot en lui-même, en fait, c'est une fausse bonne idée, quoi. C'est comme Frankenstein. Hein. On n'est pas loin de la machine qui vous dépasse, qui vous englobe et qui vous étouffe.
Avec Valérie Carcenti, avec d'autres acteurs hein, sur ce film, vous aviez déjà travaillé ensemble. Est-ce que ça facilite les choses ou est-ce que finalement, ça change rien ?
Quand on s'apprécie, bien sûr, c'est plus facile. Après, le robot, le travail du robot, bon, on n'a pas de relation. La relation se développe au fur et à mesure. Là où ça a été très bien pour Valérie, c'est qu'on se connaissait très bien. Et pour jouer des couples, pour avoir eu l'expérience avec 7 ans de mariage avec Catherine Fro, c'est vrai que c'est important d'avoir un background, d'avoir travaillé un petit peu en amont pour... En amont, parce qu'il y a en amont. Ouais, bah c'est assez joli comme elle, parce que c'est ça, c'est-à-dire que dans la rue, on s'aperçoit que parfois des gens qui s'embrassent fougueusement, on se dit, tiens, ils se connaissent depuis 2-3 jours, et puis parfois un homme ou une femme qui enlève un cheveu sur les épaules, on se dit, oula, eux, ils s'aiment depuis longtemps. Et bah c'est ça, c'est trouver ces choses-là, et je crois que comme on se connaissait très bien avec Valérie, très vite, on a vite travaillé le côté, elle pouvait m'engueuler très fort, et moi j'étais là parce que j'ai l'habitude, et le fait, inconsciemment, les gens se disent, oh, c'est un couple qui s'aime. Bon, après, il faut faire gaffe, ça peut exploser. Mais c'est dans les moments parfois les plus... Comment dirais-je ? Même quand elle m'engueule à la fin, elle dit « Dors, je t'aime !» On sent bien quand même qu'il s'aime. Et même quand je dis « Mais je te verrai plus... » Oui, c'est sympa à jouer, ça. C'est pas du premier... Il y a plein de sous-textes, plein de vécu avant, plein de... sympa à jouer, ça. Je vois ça dans 7 ans de mariage aussi, quand elle me surprend et que je lui dis des horreurs à l'oreille, parce que mon copain médecin, Jacques Weber, me dit dis les mots un peu salaces et tout, je lui mets des mots salaces. J'ai dit, ouais, c'est médical. Et elle regarde, elle joue bien comme... Voilà, c'est pas une femme choquée, c'est une femme perturbée. Mais c'est quoi, c'est mon homme, il devient fou. Et c'est pas comme quelqu'un qui dit, ouais, ça va pas au premier degré. Non, non, c'est ce côté, mais qu'est-ce qui lui prend, quoi, voilà. Et là, pareil, il y a plein de scènes comme ça entre nous deux, où d'un seul coup, qu'est-ce qu'il te prend ? C'est ça ton problème ? C'est quoi ? Tu crois que t'as cru que j'avais fait le truc love-love ? C'est pas ça qui l'a fait chier, c'est que tu puisses penser ça. Voilà. Donc, c'est des petits trucs de jeu qui sont assez fins, ça. C'est pas un homme qui vous met la main au cul et puis ça va pas, monsieur. C'est mais qu'est-ce qui te prend, quoi ? Tu vires mal, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est tout de suite, et ça, c'est le background qui fait ça. Alors que bon, avec le robot, donc, sauf à la fin. Mais le robot, bon, au début, moi, je regarde. D'ailleurs, comme je vous disais, c'est très drôle. C'est vrai que c'est sympa, le personnage. Quand je dis arrête de se faire, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Il y a comme ça. Mon personnage est aussi, il est encore plus gamin que le robot, je crois. Enfin, plus idiot.
Comme l'homme parfait, est-ce qu'une comédie, ça laisse autant de place qu'au drame ou comme vous l'avez dit là auparavant, c'est une question de travail finalement.
Tout à fait, ben, comme moi je parle du banquet, la comédie, tragédie, comme dit Socrate dans le banquet, c'est pareil quoi, ça, c'est la même chose. D'ailleurs ce film pourrait très vite virer en un drame un peu comment dirais-je, de science-fiction, puisqu'il y a une sorte de robot. Ça pourrait se terminer. D'ailleurs, à un moment donné, on voulait pas ce que faire soit, on l'a pas fait, mais comme un cauchemar qui aurait pu être une fin dans la tête de mon personnage, c'est d'un seul coup d'imaginer une ville où tous les pères de famille se retrouvent dehors, déshérités, puisque plus personne n'a besoin d'eux. Vous savez, pour faire une image des insectes, quand le mâle a fait sa fonction de reproduction, il est tué ou il meurt. Ouais, c'est ça, hein, mais il aurait pu être un cauchemar dans personne à qui il étouffe, c'est à quoi je sers. Ce qui est assez joli, parce qu'il se rend bien compte que quelque part, il a à se reprendre en main aussi un peu.
pour un rôle comme celui-là, qu'est-ce que vous puisez de vos années précédentes, celles parmi les inconnus par exemple?
Un truc intéressant pour les jeunes artistes qui peuvent nous écouter, ou même pour les gens en général, nous on a quand même bien réussi notre passage de sketch au cinéma parce qu'on avait compris une chose, en regardant, hein, que dans les sketchs on peut être très très éloigné de nos personnalités, ça c'est sûr. On peut jouer des personnages complètement bon. Au cinéma, je dis pas qu'on peut pas être éloigné, mais comme on faisait une comédie où ça ressemblait un peu à nous, enfin de la vie de tous les jours, c'était pas une histoire de personnage complètement différent ou un biopic, et ben on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'il y ait des couleurs qui nous ressemblent. Pour ça que dans le film Les Trois Frères, je suis le seul à être jeune papa, c'est le premier jeune papa des inconnus, c'était moi, avec son côté un petit peu bourru parfois. Bernard, un petit peu celui qui ne se rend pas compte de rien, c'est un peu Bernard dans la vie. Et l'aîné, le seul aîné des trois, c'est pas le plus vieux, c'est le plus jeune, entre guillemets, mais pas de beaucoup. Mais c'était le seul aîné, parce que cadet, Bernard et moi, on est cadet, c'était Pascal. Et il est comme ça dans la vie, c'était dans les chambres d'hôtel, celui qui rangeait plus ses affaires. Et ben on l'a fait un peu comme ça dans Les Trois Frères. Et là, pareil, je pense qu'au cinéma, dans le film de Duringer, c'est pas moi le personnage, mais je prends des choses de moi parce que c'est une comédie, donc il faut toujours chercher l'équation, il faut que, ce qui est à vous appartienne au personnage, bien évidemment, mais si vous pouvez le faire, c'est toujours bien parce que ça sera plus naturel. Après, il faut jamais tirer le personnage à soi, sinon c'est pas intéressant et les gens d'ailleurs se lassent très vite, mais il faut essayer de faire cette équation, quoi.
C'est la fin pour moi, je vous retrouve la nuit prochaine sur Voltage. Passez une bonne fin de nuit. Au revoir.
Tu m'attends, puis tu attends que je fasse le pas. On a joué tellement de fois, on y gagne quoi? Se lance comme si la peur avait oublié d'avance. Que sinon, ignore. T'arrives pas too late for these temptations. Too late for me to find a reason to stop you. Gazing into my eyes, watching you. It's too late for me to read now. It's too late for me to cool it down. S'accorde à faire les sourds, on se ment tour à tour. À quoi on joue? Je veux plus faire d'efforts, l'amour au mur, au pire les remords. Que sinon, ignore. That is not too late for these temptations. Trop tard pour nous trouver des raisons d'apaiser le feu dans nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de renier. Trop tard pour moi de renoncer. Ces tentations, c'est trop tard pour nous trouver des raisons d'apaiser le feu dans nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de renier. Trop tard pour moi de renoncer.
Votre radio, on vous donne directement notre numéro 07 80 80 64 64. C'est le numéro Voltage. Écrivez-nous, laissez-nous un vocal et partagez-nous toutes vos envies en direct. Voltage. Dance Music. 07 80 80 64 64. Et Voltage reste encore une fois.